L'épopée de 17 moines bénédictins originaires des Aldudes, racontée par Mickaël et Ramouspé. La dernière fois, vous nous aviez laissé aux États-Unis, dans l'Oklahoma et la Californie, précisément avec 5 moines bénédictins des Aldudes. Et cette fois-ci, vers quels horizons allez-vous nous amener, Mickaël Ramouspé? Bonjour.
Oui, bonjour Alexandre. Effectivement, après les États-Unis, cap encore vers le continent américain, mais vers le sud cette fois, et précisément en Argentine, près de Buenos Aires, où nous allons suivre 4 moines des Aldudes. Alors il y a Felipe Ardanz de la maison Soldadoña, Fermín Hospital Coscartia, Odonok Sarart Marquichainia, ainsi que Arno Laxag Prichainia. En effet, en 1898, Belloc, qui est à ce moment-là une abbaye prospère, reçoit de l'Argentine un appel à fonder un monastère qui serait en quelque sorte une succursale de Belloc. Mais, en préambule, il est important de rappeler que depuis le milieu du XIXe siècle, des milliers de Basques émigrent vers l'Uruguay ou l'Argentine. Et ils ne sont pas les seuls. Les Italiens émigrent également en masse. Rappelons que notre pape actuel, Bergoglio, est issu d'une de ces familles italiennes. Nos voisins béarnais ne sont d'ailleurs pas en reste. Alors très tôt, Michel Garicoitz a porté le souci d'accompagner spirituellement ces populations. Dès 1857, 4 pères de Bétaram débarquent à Buenos Aires et l'évêque de ce diocèse leur confie l'administration de l'église San Juan, surnommée d'ailleurs très vite l'église des Basques, où ils célèbrent la messe en basque. Et les pères bétaramites sont appelés Padres Bayonenses, pères bayonnais. Le 19 mars 1958, le père bétaramite Barbé ouvre à Buenos Aires toujours donc le collège de San José, dans lequel il accueille 4 enfants. À proximité du quartier Once, qui était le terminus des laitiers de Lechero, basque, de Flores, il doit faciliter la scolarisation de leurs enfants. Le souhait de fonder une école destinée exclusivement à la communauté basque ne se réalisera pas puisque 10 ans plus tard, les enfants d'origine basque sont minoritaires dans l'établissement. Mais on l'appelle aujourd'hui encore « El Colegio de los Vascos ». Et ce sera encore un bétaramide, le père François Lapitz, qui sera un des initiateurs de Escolechia, la maison basque donc de Buenos Aires, avec l'aide du mécène sous le tain, Martin Errecaborde. N'oublions pas que les religieuses servantes de Marie, fondées par Édouard Sestac, ne sont pas en reste, puisqu'elles y enverront également des religieuses. Revenons donc à Belloc, car il se trouve également que les fondateurs, dont le père Bastre, portaient déjà ce souci dès l'origine. Mais voici comment tout s'enchaîna, et ça s'enchaîne très très vite, vous allez le voir. L'évêque du diocèse de Paraná, dans la province de Entre Ríos, était allé à Luján prier la Sainte Vierge pour lui trouver une congrégation qui accepterait de faire une fondation dans son diocèse de Paraná. Il rencontra le père Jean-Pierre Arbelbide, prêtre diocésain de Bayonne à Buenos Aires, et lui en parlait. Et celui-ci répond « Venez, je connais une maison très prospère au Pays Basque. Le supérieur avait eu autrefois l'intention de venir en Argentine pour aider les Basques à se sauver. » Voilà d'où est partie l'idée. L'évêque Lalastra était parti à Rome et avait dû se mettre en relation avec Belloc. Mais il ne faut pas oublier que parallèlement, le gouvernement argentin cherchait également, pour mettre en valeur ces immenses territoires, une congrégation, une œuvre, susceptible d'ouvrir une école agricole. Et Belloc accepta avec enthousiasme. 2 jeunes pères, Fermín Hospital des Aldudes donc, et Gérard Aran de Lacar, furent envoyés pour préparer leur arrivée. Au bout d'un an, Fermin Hospital de la maison Cochecartia des Aldudes revient pour rendre compte et pour conduire les volontaires de Belloc vers cette nouvelle fondation. Et ici, je laisse la plume à Arnaud Laxag de la maison Pritchiaigna des Aldudes. Voici ce qu'il dit. Le père Bastre nous parla de l'Argentine et demanda des volontaires. J'en étais. Me voici donc aux Aldudes pour avertir mes parents de mon départ. Précisant que je n'avais que 19 ans et que je n'avais pas encore prononcé mes vœux. Ma mère ne voulait rien entendre, alors je lui dis que si elle ne me laissait pas partir en Argentine, je laisserais tomber Belloc pour aller, comme mes frères, berger aux États-Unis, et qu'alors elle ne me reverrait plus. Ma mère se résigna, mais tomba malade. Elle garda le lit 6 mois durant. Alors Arnaud Laxag continue, nous fûmes 25 à quitter Belloc le 28 juillet 1999, me semble-t-il, pour nous embarquer à Bordeaux. Le voyage était payé par le gouvernement argentin et en arrivant à Buenos Aires, nous dûmes faire la quarantaine à l'île de San Martín à cause de l'escale que nous fîmes à Rio de Janeiro où il y avait eu une épidémie. Nous arrivâmes à Victoria le 28 août. Le père Gérard vint à notre rencontre à Nogoya. Le voyage était agréable, dans la joie. Le père Fermin Hospital avait fait cette réflexion en constatant cette allégresse. Ah, les imbéciles, s'ils savaient ce qui les attend là-bas. La réception à la gare fut très bien, puis en voiture, on alla à l'église paroissiale chanter le Te Deum. La voix du père Théophile Irigoyen de Hainis fut très goûtée. Puis, en voiture encore, on se dirigea, accompagné toujours par le comité, au monastère. Oula, mais là, vraiment rien d'attrayant. Une maison basse à un seul étage, le rez-de-chaussée, briques au sol, briques à la toiture, avec du zinc, de la tôle par-dessus. Vraiment, c'était plus que modeste. Une salle comme dortoir pour frères, et ainsi que les frères convers. Une vingtaine de lits, 4 ou 5 chambres pour les pères et les frères étudiants aveux, pour chapelle une petite chambre, avec une autre suite qui servait aussi de parloir en dehors des offices. Réfectoire, cuisine et le reste à l'avenant. Les WC dehors, assez près, pas d'eau courante, un puits assez près et un autre moulin avant plus bas, la première impression fut assez pénible. Vivre en dortoir et surtout en été, avec ces chaleurs torrides et en plus les moustiques, le 30 août, c'est-à-dire le surlendemain de notre arrivée, nous allâmes chanter la messe à la paroisse Santa Rosa de Lima, patron de l'Amérique latine. Et la vie commença. Le père Gérard et Fermine s'occupaient de la paroisse. Le père Ardance faisait l'aumônier à l'hôpital. Un peu plus loin, il y avait une estancia, une exploitation bien plus grande. Dès le début, on se mit au travail. Jardin, vigne, etc. Mais au point de vue intellectuel, rien. Pas une seule journée de classe pendant 4 ans. Ni littérature, ni philosophie, rien. Ce fut lamentable. D'ailleurs, au point de vue formation, il en fut de même. Jamais aucune classe. Le soir, le chapitre ordinaire et rien de plus. Aussi, tant de jeunes sans vœux, 15 au moins, je crois, abandonnèrent le couvent. Comment avait-on pu songer à envoyer des jeunes sans vœux pour faire une fondation? C'est insensé, insiste le père Arnaud Laxag. La deuxième année, je crois, on construisit un bâtiment qui devait servir dans le projet d'écurie avec toiture en paille. Mais on nous pressa de toute façon à ouvrir un collège agricole parce que tel était le but de la fondation. On transforma l'étable en collège et on ouvrit le collège avec le père Gérard, directeur. Je devins surveillant. Au bout de 2 ans, le supérieur de la fondation, le père Alphonse Uricariet de Baïgorry, fut relevé et remplacé par le père Felipe Ardanz des Aldudes. Les débuts sont donc très difficiles. Laissons le père Arnaud Laxac raconter. Après le noviciat, nous reprîmes les classes, pas brillamment. Et pendant plusieurs années, il n'y eut plus de novice de cœur. J'oubliais de dire que pendant le temps du noviciat, le jeudi, la promenade consistait à apprendre aux nouveaux venus à aller à cheval. car il y avait 2, 3 et souvent 4 chevaux toujours à la disposition de ceux qui devaient sortir. Peu à peu, le monastère se structure avec le renfort de moines expérimentés venus de Belloc. Le père Grassi, d'Asquin, prend en charge la formation des novices. Plus tard, il devient prieur du monastère et dès 1917, il écrit « Il est temps d'ériger Niño Dios en abbaye indépendante ». Il faut toutefois attendre 1927 pour qu'un autre baïgorillard, le père Salvador Laborde, en devienne le père abbé. Finalement, après des débuts chaotiques, l'œuvre de Belloc a réussi, dans les pires difficultés, à s'implanter et à prospérer, fondant à son tour d'autres monastères bénédictins en Amérique du Sud. Auparavant, en 1907, le père Arnaud Laxag est rentré en Europe, non pas à Belloc, d'où les moines ont été expulsés, mais à Lascao, en Guipuscoa, près de Saint-Sébastien, où ils se sont réfugiés. C'est donc là-bas qu'on le retrouvera.
Merci Michael Ramouspé. Je crois que vous avez oublié de nous parler du nom de cette fondation. Je crois que le nom de cette fondation, c'est Niño Dios.
Oui, effectivement, il se trouve qu'en partant de Belloc, en 1899, donc, les moines détachèrent des bras de la Vierge de Belloc l'enfant qu'elle portait sur les bras, d'où le nom de Niño Dios. Mais auparavant, Alexandre, nous allons nous attarder sur les 3 bénédictins des Aldudes qui sont restés en Argentine. Mais ce sera pour la prochaine fois.
Merci beaucoup, Michael Ramouspé. Merci à tous les auditeurs pour leur écoute et à très bientôt.